RFI, il est 6h30 à Kigali et Paris, 5h30 à Kinshasa. À l'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, le processus diplomatique qui reprend aujourd'hui autour de la RDC et du Rwanda.
Le processus de Luanda en Angola, rencontre attendue aujourd'hui entre les chefs des diplomaties des deux pays. Mais chacun faisait état récemment encore de blocage et se renvoyait la balle. On voit ça dans quelques instants. Les ONG saluent la décision prise à Genève. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a prolongé le mandat du rapporteur spécial sur le dossier Burundi. On reviendra ensuite sur la visite hier du Premier ministre haïtien Gary Conille au Kenya. Il a rencontré William Ruto. La question de la force internationale déployée sur l'île était évidemment sur la table. La contre-COP des peuples africains. 5 jours de discussion à Sali au Sénégal en amont de la COP29 le mois prochain en Azerbaïdjan. Un moyen pour la société civile de faire entendre la voix du continent. L'actu sport également au programme, bien sûr, comme tous les jours. Et puis, visite d'une exposition à Abidjan, celle consacrée au peintre Eladj Lindsay Delumo. Il a 29 ans, il est né en Guadeloupe et il fait actuellement le pont entre son île et le continent. Venu de Kinshasa et de Kigali, les ministres des Affaires étrangères de RDC et du Rwanda doivent donc normalement se retrouver aujourd'hui en Angola. 5e rencontre du genre organisée cette année dans le cadre de ce qu'on appelle donc le processus de Luanda, c'est-à-dire sous la médiation angolaise. Il s'agit ici de mettre un terme au conflit entre les deux voisins, de faire taire les armes dans l'est de la RDC entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Mais l'affaire est loin d'être gagnée, les négociations patinent toujours. La semaine dernière encore, Alexandra Brangeon, Kinshasa et Kigali s'accusaient mutuellement d'être à l'origine de blocages.
La rencontre d'aujourd'hui est presque inespérée, commente un observateur, tant la précédente mi-septembre s'est mal terminée. Les deux délégations rwandaises et congolaises s'étaient quittées sans communiqué officiel, ni date pour une prochaine réunion. Principal point de blocage, la chronologie du plan de désengagement des forces en présence dans l'est de la RDC. D'un côté, la RDC doit neutraliser les FDLR, ce groupe rebelle Hutu formé à l'origine d'anciens génocidaires rwandais. De l'autre, le Rwanda doit désengager ses troupes du territoire congolais. Sauf que pour Kinshasa, ces opérations doivent être simultanées, alors que pour Kigali, la neutralisation des forces FDLR doit précéder la seconde opération. Selon un observateur, le médiateur angolais va donc devoir convaincre les deux parties de s'engager indépendamment de l'autre et surtout, commente ce même observateur, faire en sorte que les deux pays arrêtent de se livrer à une guerre des mots dans les médias.
Alexandra Brangeon, la médiation angolaise dans ce dossier RDC-Rwanda, qui reste en tout cas l'option diplomatique privilégiée par la communauté internationale. Le nouvel envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs l'a notamment réaffirmé lors d'un déplacement d'abord à Kinshasa, où un entretien avec le président Tshisekedi a finalement été annulé. Et puis Johan Bergstam s'est ensuite rendu dans la foulée à Kigali, où il a été reçu ici en revanche par le président Kagame. Visite au Rwanda qui doit se poursuivre ce samedi. La RDC, où l'émotion sera probablement vive aujourd'hui pour les hommages qui sont organisés en mémoire du basketteur Dikembe Mutombo, décédé le 30 septembre dernier à 58 ans. Cérémonie prévue notamment à l'hôpital Marie Biamba Mutombo qu'il a créé, qu'il a construit il y a 17 ans, ainsi qu'au gymnase jumelé du stade des Martyrs qui porte désormais son nom à Kinshasa. Dikembe Mutombo, lui, sera inhumé aujourd'hui à Atlanta aux États-Unis où il a brillé sur les parquets de NBA. Un mandat renouvelé à Genève et les ONG qui travaillent sur le Burundi s'en félicitent. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a en effet reconduit pour la 4e fois le mandat de son rapporteur spécial sur ce dossier burundais. Malgré l'opposition farouche de Gitega, le Conseil l'explique par des inquiétudes et par un bilan qui reste accablant près de 10 ans après une violente crise politique, alors même que des élections législatives et locales sont prévues en mai 2025. L'ONG Human Rights Watch salue donc cette décision, tout comme la CAT Burundi et son président Maître Armel Nyongere. Il nous explique que le non-respect des droits de l'homme a peut-être changé de visage au Burundi, mais qu'il reste bien réel.
Il y a des violations, c'est la forme qui a changé. Avant, on observait beaucoup de cadavres dans les rues, mais pour le moment, ils ont changé de stratégie. Nous constatons beaucoup de violations, de disparitions forcées. des violations de torture, des arrestations arbitraires à caractère politique. On voit aussi qu'il y a l'implication dans ces exécutions extrajudiciaires, dans ces disparitions forcées, dans ces tortures des agents de l'État, et on voit l'absence totale de la justice. Ce que ça sert, le renouvellement du mandat de la portée spéciale, c'est que le Burundi reste sur l'agenda du Conseil. Parce qu'au Burundi, il n'y a pas de mécanisme indépendant qui peut faire le monitoring crédible des violations des droits de l'homme. Le gouvernement, il a fermé le Haut Commissariat des droits de l'homme, il a refusé de coopérer avec la commission d'enquête. Donc, c'est important que ce mandat soit reconduit pour que la communauté internationale et en est vigilant sur la situation des droits de l'homme au Burundi.
L'alerte de Maître Armel Nyongere, président de la CAT Burundi. On vous l'annonçait hier matin sur RFI et la rencontre a bel et bien eu lieu au Kenya où le Premier ministre haïtien Gary Conille s'est entretenu avec le président William Ruto. À Nairobi, mais c'est bien la MMAS déployée en Haïti qui occupait les esprits. Cette mission multinationale d'appui à la sécurité mise en place sous l'égide de l'ONU, mission qui est pilotée par le Kenya justement et qui doit aider les autorités haïtiennes à lutter contre les gangs. 400 policiers kenyans sont déjà sur place depuis juin. D'autres devraient arriver prochainement, Gaël Alex.
600 Kenyans sont en train d'achever leur entraînement pour être déployés le mois prochain. William Ruto veut ainsi montrer sa détermination à mener à bien cette mission, une volonté qu'il aimerait également voir chez d'autres partenaires.
Les Émirats Arabes Unis se sont engagés à soutenir cette mission. Le Salvador s'est aussi engagé la semaine dernière à fournir des capacités. Nous pouvons faire plus, mais les partenaires doivent s'investir. C'est le moment d'intensifier leurs efforts et c'est le moment de fournir ce soutien critique dont nous avons besoin pour mener à bien cette mission.
130 millions de dollars manquent encore au budget de la MMAS. Pourtant, son mandat a été prolongé fin septembre par le Conseil de sécurité de l'ONU. Gary Conille, le Premier ministre haïtien, aimerait que les finances suivent, car les promesses sont nombreuses, mais rarement concrétisées.
Après l'Assemblée générale de l'ONU à New York, nous avons eu de nombreuses rencontres avec des partenaires. L'Union européenne, par exemple, a doublé ses promesses. On parle de nouveaux partenaires comme le Brésil, le Mexique. Mais on voudrait voir une réponse plus rapide et on va continuer à pousser pour cela.
Pour assurer un financement pérenne de la MMAS, les États-Unis souhaitaient la transformer en mission de maintien de la paix de l'ONU. Ils ont finalement reculé face au refus de la Russie et de la Chine. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Jugées pour homosexualité aux Comores, deux femmes ont comparu hier devant le tribunal correctionnel de Moroni, où le parquet a requis à leur encontre 2 ans de prison, dont un an ferme. Deux femmes accusées de faits d'actes à caractère sexuel contraires aux bonnes mœurs et contre nature. Leur arrestation en juin dernier, le procès avait suscité de vives réactions. Verdict attendu désormais pour le 14 novembre dans cette affaire. Cette affaire-là crée l'émoi en Afrique du Sud, au sein d'une communauté de Soweto, plus particulièrement à Johannesburg, dans le quartier de Naledi, où 5 enfants sont morts le week-end dernier après avoir présenté des symptômes laissant penser à un empoisonnement alimentaire. Un 6e enfant hospitalisé se trouve quant à lui dans un état jugé critique. Claire Bargelès, de simples frites vendues dans des boutiques du quartier pourraient être à l'origine, selon la police.
Ces enfants avaient entre 6 et 9 ans et ont été pris de vomissements et de maux de ventre en rentrant chez eux. Ils sont décédés quelques instants plus tard. Ils auraient tous consommé des encas vendus dans leur rue. Un drame bien trop familier pour le quartier puisque l'année dernière, 2 enfants étaient morts après avoir mangé des biscuits achetés dans ces boutiques locales. Cependant, les tests menés par la ville de Johannesburg avaient montré que ces gâteaux n'étaient pas toxiques. Ces nouveaux décès ont en tout cas attiré la colère sur les Spaza Shop, ces petits magasins présents dans les townships et pour beaucoup tenus par des étrangers, souvent d'origine éthiopienne, somalienne, bangladaise ou pakistanaise. Dans un pays où la tentation xénophobe est grande, des membres de la communauté appellent à la fermeture de ces boutiques et certains ont même forcé cette semaine des commerçants à plier bagages. La ministre ANC rattachée à la présidence, Kumunzo Tshaveni, a réagi en encourageant les résidents à ne rien acheter dans des magasins qui ne sont pas recensés auprès de la municipalité. Les funérailles de ces 5 enfants sont prévues ce dimanche. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Alors que la conférence de Berlin sur la sécurité climatique se tenait cette semaine, la grand-messe mondiale de l'environnement se prépare dans le même temps. La COP 29, ce sera dans un mois tout juste en Azerbaïdjan. Et pour interpeller en amont de ce rendez-vous à Bakou, la contre-COP des peuples africains s'est quant à elle refermée hier après 5 jours de rencontre à Sali au Sénégal. Un événement alternatif pour mettre en lumière les problématiques du continent, pour qu'il soit entendu et que sa voix pèse dans les débats. Gwendal Lavina a été sur place pour RFI.
250 participants venus de 25 pays du continent ont assisté à cette contre-COP, pensée comme un lieu d'affirmation de la réponse africaine aux défis climatiques et environnementaux. Tout ne doit pas venir des pays occidentaux, estime ainsi Abidia, chargée de projet de l'ONG sénégalaise Lumière Synergie pour le développement.
Je ne pense pas que les solutions qu'on nous propose et qui viennent des pays du Nord peuvent être justes, peuvent être adéquates à l'endroit des communautés africaines.
D'où, selon elle, la nécessité de s'inviter dans les discussions.
Les communautés africaines qui continuent de perdre leur terre, leur lieu de résidence, leur maison, leur eau, demande qu'on les implique dans les négociations pour qu'on puisse avoir des solutions justes et des solutions durables.
Pour l'Africa Climate Justice qui a organisé l'événement, il ne faut pas non plus s'interdire de penser à un nouveau cadre. Rumbidzai Pachlo en est la coordinatrice.
Si on continue à s'investir sans avoir le même poids dans les négociations, en ayant des problèmes ignorés ou minimisés, la situation n'évoluera pas. Donc oui, un processus alternatif à la COP serait une meilleure façon de répondre aux défis environnementaux que nous affrontons.
Une déclaration en 10 points signée par tous les participants appelle aussi à la fin des extractions de combustibles fossiles ou encore une réforme des lois foncières pour promouvoir la souveraineté alimentaire. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Dakar, où il est 4h41, 6h41 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI. Sébastien Duhamel.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Restez avec nous, bien sûr. Dans un petit peu plus de 18 minutes, ce sera RFI Matin avec Julien Coquel-Rouem. Mais d'abord, un réveil tout en culture avec la visite d'une expo à Abidjan consacrée au travail du jeune artiste guadeloupéen Eladj Lin